Voilà, donc j'ai préparé en fait des diapos en anglais, mais je vais parler en français. J'espère que ça ne sera pas trop déconcertant, y compris pour moi. Je vais parler en effet de la question des hinges, en particulier chez Wittgenstein, mais comme vous le savez, la question a été est régulièrement remise sur la table, parfois en oubliant qu'il y a eu des discussions. Il y a eu un magnifique ouvrage de Avrum Stroll qui n'est plus beaucoup cité sur cette question, mais qui reste, à mon avis, actuel. Dans cet exposé, je vais me poser la question de la relation entre, on va dire, la perception et la connaissance perceptive, parce que pour moi, il ne s'agit pas de la même chose. Et je vais aborder cette question sous l'aspect, justement, des hinges, c'est-à-dire des gonds, des charnières, ou comme je le dirais peut-être en français, des cadres, pour employer une autre métaphore également utilisée par Wittgenstein. Alors, on en a déjà parlé, même cet après-midi, donc Wittgenstein, dans De la certitude, suggère que notre activité épistémique, notre évaluation rationnelle repose sur des gonds, c'est-à-dire sur des propositions qui sont exemptées du doute. Donc le raisonnement, la formation des jugements, l'acquisition de la connaissance repose sur des engagements ou des postures qui sont elles-mêmes irrationnelles en un certain sens, qui ne jouent pas le rôle épistémique de croyance empirique ou critique. Alors, on n'est pas supposé agir directement sur ces gonds comme le fait quelqu'un dans cette image, hein, mais c'est pourtant ce que le philosophe fait. Bon, j'espère que le philosophe ici ne sera pas trop bricoleur, sinon la porte risque de tomber. Bon, quand on parle de cadre, il y a une distinction très importante que la plupart des auteurs font d'une manière ou d'une autre entre... on va dire le contenu de ces charnières, c'est-à-dire éventuellement des propositions, en tout cas ce qui ressemble à des propositions, comme dirait Wittgenstein, ce qui est la forme d'une proposition, et on peut appeler ça des propositions cadres, si vous voulez. Ces propositions cadres, c'est ce que le sujet tient pour acquis dans l'enquête, dans l'acquisition de la connaissance. Et puis, on peut parler, si vous voulez, de relations entre un sujet et une proposition cadre, ou un ensemble de propositions cadres. Et à ce moment-là, on peut parler, comme Pritchard récemment, d'engagement cadre, c'est-à-dire de certaines relations, éventuellement des relations qui ressemblent sous certains aspects à la croyance, mais qui ne sont pas des croyances, entre les sujets et ces propositions cadres. Il y a plusieurs alternatives qu'il faut régler sur un plan théorique et sur lesquelles je ne dirai rien aujourd'hui. Par exemple, est-ce que des propositions fausses peuvent être des propositions cadres? J'ai personnellement tendance à penser que les propositions cadres sont en fait des faits et donc que seules des propositions vraies peuvent être des cadres, mais c'est une thèse qui doit être défendue évidemment méticuleusement, je ne le ferai pas ici. Et de même, on peut se poser la question de la nature des engagements cadres. Hein, si les propositions cadres existent, alors les engagements cadres sont en un sens des attitudes propositionnelles, mais sont-elles des attitudes factives, par exemple? Hein, est-ce qu'adopter une certaine relation d'engagement à l'égard d'une proposition cadre, c'est une attitude factive, c'est-à-dire une attitude qui implique la vérité de la proposition cadre, ou pas? Évidemment, les deux alternatives théoriques sont liées d'une certaine manière. Ces engagements cadres sont parfois, dans la tradition philosophique, appelés des certitudes primitives. C'est le terme qu'utilise Russell, mais aussi Husserl, comme Kevin Mulligan le rappelle. Donc ce sont des états mentaux, en un certain sens. Après, comment interpréter ontologiquement ces états? Est-ce que ce sont des états sui generis? Ou est-ce qu'il faut adopter une attitude plus adverbialiste à l'égard de ces états, ça c'est plutôt une façon de raisonner, une façon d'agir éventuellement, plutôt que des états séparés. Là encore, je vais dire très peu de choses là-dessus. Mais en tout état de cause, si ce sont engagements cadres, ce sont les États qui ne justifient pas et qui ne sont pas justifiés, du moins selon la description de Mulligan. Il y aurait, d'après l'hypothèse wittgensteinienne, des propositions et des engagements cadres pour la connaissance perceptive, c'est-à-dire la connaissance qui repose sur l'expérience sensorielle, visuelle, auditive, visuo-auditive, etc. Et l'idée, si vous voulez, très générale, d'après laquelle la connaissance perceptive ordinaire, voici une chaise, ou cette chaise, quelqu'un a oublié sa veste sur la chaise. Bon. Ce type de connaissance, si c'est une connaissance, repose sur un certain nombre de propositions cadres. Des propositions qui, on va dire, ont affaire, concernent, disons, les conditions de possibilité de mon expérience sensorielle, de la véridicalité ou de la véridicité de mon expérience sensorielle. C'est une thèse, je crois, qui n'est pas consensuelle, parce qu'il n'y a aucune thèse consensuelle en philosophie, mais c'est une thèse largement admise en épistémologie, que je peux acquérir une connaissance perceptive sans posséder indépendamment ou au préalable la connaissance que l'ensemble des conditions de possibilité de mon expérience sensorielle sont satisfaites. Je pense que la plupart des épistémologues admettent sans forcément parler explicitement de cadre ou de proposition cadre, qu'il est possible d'acquérir des connaissances perceptives d'une certaine manière, en tenant pour acquis certains faits concernant mon expérience. J'adopte ici une formulation assez prudente, hein, l'acquisition de la connaissance perceptive ordinaire ne dépend pas de la possession indépendante ou préalable de la connaissance des conditions de possibilité de l'expérience pour ne pas entrer dans des considérations qui ont été évoquées tout à l'heure qui concernent le principe de clôture épistémique. Évidemment, il y a une tension hein, entre le principe de clôture épistémique et toute la théorie des propositions et des engagements cadres. Pritchard, précisément, essaye de montrer que la tension est apparente selon une certaine interprétation du principe de clôture épistémique. Ici, je ne vais pas entrer dans le détail. Maintenant, si on va au-delà des conditions de possibilité de l'expérience, alors, en fait, elles étaient là, je ne les ai pas formulées explicitement en français, hein, c'est des conditions du type, comme dirait Aristote, je n'ai pas la jaunisse, donc mon expérience des couleurs est véridique, les conditions d'éclairage sont normales, le milieu perceptif est normal, il n'y a pas de miroir déformant, mon cortex visuel fonctionne correctement, hein, je n'ai pas de déficit visio-récognitionnel, ainsi de suite. Hein, toutes ces propositions auxquelles évidemment le sujet ordinaire ne pense pas quand il forme le jugement « tiens, il y a une chaise », sont des conditions de possibilité d'une expérience sensorielle véridique. Maintenant, au-delà de ces conditions de possibilité, il y a d'autres propositions cadres qu'on peut essayer de dégager. Là, on rejoint des exemples qui ont été aussi évoqués en partie dans l'exposé précédent, hein, la reconnaissance perceptive. Hein, quand je vois Julien là devant moi, il y a un sens dans lequel j'acquiers la connaissance perceptive que Julien Dutang est assis au troisième rang. On peut faire l'hypothèse que cette connaissance perceptive dépend du fait que je tiens pour acquis l'absence de sosie, doppelganger, comme on dit, dans l'environnement immédiat. Évidemment, si cette proposition cadre est fausse, ça remet en question la formation de mon jugement de perception. Pour être plus précis, ça remet en question la valeur épistémique de mon jugement de perception. De même pour les espèces naturelles, hein, si je vois un tigre, hein, ben je peux acquérir la connaissance perceptive qu'il y a un tigre devant moi en tenant pour acquis que, en gros, ce qui ressemble à un tigre, hein, une sorte d'animal d'une certaine taille, qui ressemble à un gros chat avec des rayures, ça c'est un tigre. Hein, et ce n'est pas une réplique plus ou moins mécanisée d'un tigre réel. De même aussi pour les objets qui sont définis par leur fonction, non pas par leur ADN, mais par leur fonction, hein, comme les objets comme les voitures. Parce que je peux acquérir la connaissance qu'il y a une voiture quand je vois une voiture garée dans un parking. Oui, si je tiens pour acquis que cette voiture a les propriétés fonctionnelles qu'on prête habituellement aux voitures. Donc ça, ce sont des extensions possibles, hein, je ne vais pas les défendre ici, ce sont des extensions possibles de la notion de proposition et d'engagement cadre appliquée à la connaissance perceptive, éventuellement à la connaissance visuelle, mais d'autres modalités sensorielles, évidemment, sont pertinentes. On verra après qu'il y a d'autres extensions qui sont encore plus controversées, hein, que Wittgenstein suggère lui-même, et qui, en apparence en tout cas, rendent la notion de proposition cadre appliquée à la connaissance perceptive un peu curieuse, un peu contre-intuitive. Bon, ce qui n'est pas contre-intuitif ici, pour beaucoup d'épistémologues, on va dire, qui restent proches du sens commun, c'est qu'on peut acquérir, hein, des connaissances perceptives sur les espèces naturelles, sur l'identité numérique d'une personne, sur les propriétés fonctionnelles d'une voiture, en tenant, encore une fois, pour acquis un certain nombre de faits. Bon, maintenant, en supposant que... je tiens pour acquis, hein, qu'une certaine conception des propositions et des engagements cadres, on va dire, tient la route. Une fois qu'on présuppose ce cadre théorique, si je puis dire, il y a plusieurs questions qui peuvent être soulevées. Il y a une question qui concerne la modularité de la connaissance perceptive. Et on peut se poser la question de savoir, si on admet que la connaissance perceptive repose sur un certain nombre de propositions cadres et d'engagements cadres, est-ce que ces engagements cadres sont spécifiques à la formation d'un jugement de perception ? Par exemple, est-ce que le fait que mon système visuel, mettons, fonctionne correctement, à supposer que ce soit un cadre, un fait cadre de ma connaissance perceptive ? Est-ce que ça peut être un cadre pour la connaissance perceptive, mais pas un cadre pour d'autres formes de connaissances, par exemple la connaissance réflexive, la connaissance théorique. Bon. Si on dit que oui, alors la connaissance perceptive va présenter une certaine forme de modularité par rapport à d'autres espèces de connaissances. Pritchard introduit dans son dernier livre cette notion de Überhinge Commitment, sorte d'engagement cadre générique, hein, qui serait censé d'une certaine manière expliquer tous les engagements plus spécifiques, et on peut considérer que s'il y a des propositions cadres de ce type-là, alors si cette proposition est mise en doute par le sujet, l'ensemble du système de croyance du sujet s'effondre, hein, par exemple, c'est d'ailleurs un exemple de Wittgenstein, si je doute que mon nom est Jérôme Nokitsch, une grande partie de mon système de croyance va être mise en doute, et l'édifice de la connaissance, et même la santé mentale pour Wittgenstein, vont être compromises. On peut considérer qu'il y a des propositions cadres plus locales, hein, qui ne compromettent, enfin, dont la mise en doute, par exemple, ne compromettrait qu'un secteur de... l'enquête, et pas toute l'enquête, par exemple. On peut considérer que peut-être, si j'ai des doutes sur le bon fonctionnement de mon système visuel, évidemment, ça va affecter mes croyances perceptives, mais pas forcément mes raisonnements théoriques. On peut considérer qu'il y a effectivement des stratifications qu'on peut envisager à cet égard. Pour Pritchard, ce qu'il appelle Überhinge Commitment, donc l'engagement cadre générique, on va dire, c'est un engagement du type « je ne suis pas radicalement et fondamentalement mistaken », c'est-à-dire « je ne me trompe pas radicalement et fondamentalement sur mes croyances ». Donc effectivement, c'est une proposition qui concerne, qui n'est pas domaine spécifique, comme on dit, mais qui concerne l'ensemble de mes croyances. Peut-être il y a des engagements de ce type-là, mais on ne peut pas réduire tous les engagements spécifiques à de tels engagements. Mais ça, je vais mettre cette question de côté, parce qu'en réalité, c'est une autre question qui m'intéresse, c'est la question de la modularité du contenu de la perception. Il y a une question un peu curieuse qu'on peut poser, c'est est-ce que la perception elle-même est-ce que la perception elle-même repose sur des engagements cadres? Alors, c'est une question différente de la question précédente qui concernait la connaissance perceptive, sauf si vous pensez, comme un certain nombre d'auteurs, que percevoir un état de choses, c'est déjà avoir une connaissance de cet état de choses. C'est une thèse que Timothy Williamson et d'autres ont défendue. C'est une thèse qui me paraît fausse pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas insister ici, sauf s'il y a des questions tout à l'heure. Donc pour moi, il y a vraiment deux questions à poser. Une question sur la modularité de la connaissance perceptive, une question que je vais laisser de côté ici, et une autre question sur la modularité de la perception. La question qui m'intéresse, le contenu de la perception et plus particulièrement le contenu épistémique de la perception, ou le contenu qui est pertinent pour justifier des croyances sur la seule base de l'expérience sensorielle, de l'expérience perceptive. Donc je vais appeler ça contenu épistémique. Tout à l'heure, je vais faire une distinction entre deux formes de perception, qui est une distinction traditionnelle. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse ici, c'est le contenu épistémique, le contenu épistémiquement pertinent de la perception. Et la question qui m'intéresse, est-ce que ce contenu peut être augmenté, est-ce qu'il peut être élargi par des engagements cadres, éventuellement spécifiques à la perception. Alors, j'ai donné un exemple qui peut paraître de prime abord être un engagement cadre interne à la perception, mais qui, à mon avis, n'en est pas un. L'exemple concerne ce que les psychologues appellent des contraintes naturelles. Les psychologues, notamment de la vision, considèrent que le système visuel a considéré comme un système computationnel, pour aller vite, doit résoudre un problème épineux qui concerne la sous-détermination des données sensorielles, physiologiques en fait, par rapport à l'interprétation perceptive, c'est-à-dire par rapport à l'expérience ordinaire qui me présente une scène en trois dimensions, avec des objets en profondeur, et un certain nombre de relations spatiales, dynamiques, au sein d'un champ perceptif. Comment le cerveau peut résoudre cette question à partir d'un ensemble limité de données, même si on considère, comme Gibson, que l'expérience perceptive est dynamique et qu'il y a un flux de sensations, si vous voulez, ou d'impressions, ou de bombardements physiologiques, comme dirait Quine, même si on admet la dynamique de l'expérience, il semble qu'il y ait une sous-détermination de ces données pour l'interprétation ordinaire d'une scène en trois dimensions. On a ici une situation épistémologique un peu analogue à celle du langage selon certaines théories du langage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut apprendre à parler en étant exposé à des données linguistiques qui sont très largement insuffisantes pour fixer une grammaire par rapport à un ensemble ouvert d'autres grammaires également possibles, étant donné cette exposition. Alors, un des exemples les plus célèbres, en fait, en regardant un tout petit peu la théorie récente, j'ai vu que cet exemple devenait un peu controversé, mais il y a un exemple célèbre que vous trouvez dans presque tous les traités de psychologie de la vision, c'est l'exemple de la lumière qui vient d'en haut. D'accord ? Donc, quand on regarde une image avec, disons, peu d'informations explicites sur la source de la lumière, en l'occurrence, il s'agit de photos, ici, mais la question des contraintes naturelles est censée s'appliquer non pas seulement à la perception des images, mais aussi à la perception écologique, la perception réelle. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissez ce type de stimulus. Donc vous avez ici à droite, en fait, c'est la même image qui a été simplement qui a été renversée. Donc le haut de la première image devient le bas de la seconde image et réciproquement. D'accord ? Donc c'est exactement la même image. Pourtant, en haut, on a tendance à voir un cratère et en bas, on a tendance à voir un volcan. Comment c'est possible, avec entre guillemets les mêmes données orientées différemment, d'avoir deux interprétations visuelles très différentes, c'est-à-dire des distributions spatiales qui sont très différentes. La réponse des psychologues, c'est que le système visuel fait l'hypothèse tacite, si je puis dire, que la lumière vient d'en haut. Donc, si la lumière vient d'en haut, ben, l'éclairage, évidemment, c'est-à-dire les parties blanches sur l'image, vont être interprétées différemment par le système visuel, selon si la lumière frappe. Si les lumières frappent en haut, si on fait l'hypothèse inverse peut-être, peut-être qu'il y a des systèmes visuels étrangers dans lesquels l'hypothèse est plutôt que la lumière vient d'en bas. Bon, qu'il s'agisse d'une contrainte naturelle peut s'expliquer par des raisons écologiques évidemment, puisque bon, le soleil il est plutôt en haut. Il y a même des résultats en psychologie de la vision qui montrent que bon, l'hypothèse c'est que la lumière elle vient d'en haut. Et un peu vers la gauche, on ne sait pas très bien pourquoi ça par contre, mais pour le point que je vais faire ici, bon, il y a d'autres contraintes naturelles, ça c'est la plus spectaculaire, il y a des contraintes sur la distribution spatiale des objets en trois dimensions, et notamment la manière aussi dont les objets se comportent quand ils se déplacent, qui sont des contraintes naturelles, c'est-à-dire des hypothèses que le système visuel forme, et qui ne sont pas d'une certaine manière appuyées par des sensations, on va dire, qui ne sont pas appuyées par l'image rétinienne, mais qui sont néanmoins, dont le système visuel, pourrait-on dire, que le système visuel tient pour acquis. Quelque chose comme ça. Donc là, pourquoi ne pas dire que, au fond, on a deux expériences visuelles avec des contenus différents, C'est un cratère pour l'image d'en haut, c'est un volcan pour l'image d'en bas. Ces deux interprétations dépendent, donc il y a une différence de contenu perceptif, et ces deux interprétations dépendent d'une hypothèse tacite de ce que le système visuel tient pour acquis. C'est-à-dire, l'idée, c'est que le système visuel, le sujet ne voit pas que la lumière vient d'en haut, mais elle voit un cratère parce que le sujet tient pour acquis le fait que la lumière vient de haut. J'espère que l'exemple était à peu près clair. Donc ça pourrait être un exemple putatif de proposition cadre, la lumière vient d'en haut, qui est interne à la perception. En fait, ça me paraît un mauvais exemple, parce qu'en réalité, on peut parfaitement défendre l'idée que le sujet, du moment que l'interprétation est atteinte, a été fixée, que l'image visuelle est stable, le sujet voit parfaitement d'où vient la lumière, en réalité. Il voit la source de la lumière. En tout cas, il a des indices qui sont présents dans le contenu de son expérience. Donc ça, c'est un mauvais exemple. Retournons maintenant à Wittgenstein, parce que Wittgenstein donne un certain nombre d'exemples qui pourraient éventuellement rendre la notion de proposition cadre un peu plus mystérieuse, du moins pour ce qui concerne la connaissance perceptive. En effet, Wittgenstein donne des exemples de propositions déictiques ou démonstratives ordinaires, comme des exemples de propositions cadres. Or, ces exemples seraient considérés par la plupart des épistémologues, même ceux qui seraient éventuellement, qui auraient des sympathies pour les autres applications que j'ai mentionnées de la notion de proposition cadre, ces philosophes-là auraient tendance à considérer les exemples de Wittgenstein comme des exemples de croyances critiques ou empiriques tout à fait ordinaires, et donc qui sont susceptibles d'être des connaissances, d'avoir valeur de connaissances. Par exemple, ce sont des passages bien connus de la certitude. Donc, je crois qu'il y a une chaise ici, mais est-ce que ma croyance est grounded? Est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce que ma croyance est justifiée, sous-entendu, par mon expérience visuelle? Et la réponse de Wittgenstein, c'est plutôt non. C'est pas une croyance qui est grounded, c'est pas une croyance qui est fondée ou justifiée par mon expérience visuelle. Ou le fait que j'ai deux mains dans des circonstances normales, constitue une certitude primitive pour Wittgenstein, ça a été dit aussi. Aussi certain que tout ce que je pourrais produire comme évidence, comme donnée probante venant de l'expérience en faveur de la croyance que j'ai deux mains. C'est pourquoi, dit Wittgenstein, je ne suis pas en mesure, je ne suis pas en position de tenir de prendre la vue de ma main comme une évidence pour, on va dire, ma croyance ou mon engagement cadre sur lequel j'ai deux mains. Alors, le point de Wittgenstein a un certain rapport à, bon, on l'a dit, à la philosophie de l'ordinaire, mais je ne suis pas un grand un grand fan de la philosophie de l'ordinaire, mais il y a un certain rapport avec la familiarité qui est incontestable. L'idée de Wittgenstein, c'est que je ne sais pas qu'il y a là une chaise, hein, ou je ne sais pas que j'ai deux mains sur la base de la perception, parce que d'une certaine manière, ces faits me sont familiers. Et ce qui est familier est précisément ce que je tiens pour acquis. Là, je n'ai pas le temps de développer. Donc, quand je vois la chaise, ben, je n'apprends pas qu'il y a une chaise. Parce que la chaise faisait partie de, on va dire, de la dimension familière de mon expérience perceptive, du champ perceptif. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais les philosophes de la perception, en particulier dans la tradition analytique, ont négligé hein, cette idée phénoménologique d'après laquelle il y a une structuration de la scène perceptive selon la distinction entre ce qui est familier et ce qui est nouveau. Et ces distinctions-là n'est pas la même, ne s'aligne pas tout à fait sur la distinction entre focus attentionnel, hein, ce sur quoi je porte mon attention, et ce qui est dans l'arrière-plan de l'attention. Il y a des rapports entre ces deux distinctions, familier nouveau d'un côté, ce sur quoi je porte mon attention, ce qui est à l'arrière-plan attentionnel, de l'autre, il y a des liens entre ces deux distinctions, mais il ne s'agit pas de la même distinction. Bon, vous aurez remarqué aussi, je suis obligé d'aller un peu vite, bon, l'idée c'est ça, l'idée c'est que plus une scène visuelle est familière, et moins elle va pouvoir justifier, plus sa valeur épistémique relative au fait familier en question sera moindre. Hein, c'est ça l'idée, c'est une traduction possible de l'idée de Wittgenstein. Donc quand je vois une chaise dans un environnement familier, cette chaise-là m'est familière, donc, et le fait qu'elle est là, c'est un fait familier, et donc je n'apprends pas, je n'acquiers pas la connaissance perceptive qu'il y a une chaise sur la base de mon expérience visuelle. Maintenant, vous aurez remarqué que Wittgenstein parle de sight, enfin de la vue de ma main, hein, si je reviens un petit peu en arrière, take the sight of my hand, la vue de ma main. Donc Wittgenstein considère qu'on peut tout à fait concilier d'un côté la thèse d'après laquelle voici une main, c'est une certitude primitive, ça ne correspond pas à une croyance empirique ou critique, encore moins une connaissance empirique ou critique. Il y a un sens dans lequel je vois une main réelle. Hein. Je ne suis pas sceptique, donc je considère que je vois une main réelle et pas autre chose. Il faudrait en dire un peu plus sur cette notion non épistémique, on va dire, de perception. Je comptais en dire un petit peu plus ici, mais je pense que je n'aurai pas le temps. Enfin, on peut revenir sur la discussion. On peut tout à fait dire que quand je vois une main, j'ai une perception non épistémique ou simple de ma main, réelle, d'une main réelle, hein, d'une main en chair et en os, si je puis dire, tout en retenant l'idée de Wittgenstein que le contenu épistémique de ma perception est beaucoup plus pauvre que cela, parce que le fait qu'il y a ici une main, c'est un fait familier. Comme vous le savez, Wittgenstein considère que dans d'autres contextes, évidemment, ce qui est familier peut devenir nouveau et réciproquement. Wittgenstein donne l'exemple d'un situation de guerre où il y a un bombardement, je suis projeté au sol, le fait que j'ai une main, c'est un fait qui peut devenir, peut-être pas nouveau, mais en tout cas qui peut redevenir l'objet d'une enquête de ma part, dans cette circonstance-là. Mais dans des circonstances ordinaires, je ne peux pas acquérir la connaissance que j'ai une main en regardant ma main. Je ne peux plus. Donc ce qui m'intéresse brièvement, hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est que si on admet que Wittgenstein a raison sur ce type d'application de la notion de proposition ou d'engagement cadre, quelles sont les conséquences pour le contenu de la perception, pour le contenu épistémique de la perception, hein, je ne vois pas que j'ai deux mains, au sens où mon expérience n'est pas capable de justifier et de transformer en connaissance la croyance qu'il y a deux mains ou qu'il y a une main, de quoi suis-je, qu'est-ce que j'appréhende dans l'expérience visuelle qui est épistémiquement pertinent. Et là, deux réponses sont possibles à cette question, qui sont des réponses qui sont associées à des conceptions du contenu perceptif qui sont très différentes. Une réponse, c'est que les engagements cadres, et c'est en fait la réponse que je suis tenté de faire, mais je ne vais pas ici donner tous les éléments, malheureusement, j'en serai pas capable, pour convaincre tout le monde, mais la conception que je souhaiterais en tout cas défendre, c'est l'idée que les engagements cadres, permettent et augmentent la connaissance perceptuelle ou perceptive, mais pas la perception elle-même, pas le contenu de la perception. C'est une position un petit peu qui est peut-être difficile à tenir pour certains philosophes de la perception, puisqu'elle implique que le contenu de mon expérience visuelle, le contenu épistémique, il est le même que je tienne pour acquis ou non le fait qu'il y a là une chaise. Mais, en fait, on peut donner une explication de ce contenu de la perception qui, vous le verrez, est un contenu pauvre épistémiquement, ce contenu de la perception. Et l'explication, c'est simplement que la perception est une affaire de perspective. La perception me donne accès à des apparences d'objets. On peut concevoir ces apparences, si vous voulez, comme des propriétés réelles. Ce n'est pas forcément des apparences au sens de données sensorielles, au sens de data. Ça peut être des propriétés tout à fait réelles. Et c'est d'ailleurs ce que je souhaiterais défendre. Mais ce sont des apparences qui sont neutres, eu égard à la présence d'une chaise réelle ou d'un assemblage d'éléments disjoints, comme quand un sujet regarde à travers une lucarne quelque chose qui lui apparaît comme une chaise, mais qui est en réalité, comme dans la chambre de Ames, qui est en réalité un ensemble de parties de chaises réparties dans l'espace. Ou un hologramme, ou tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est la première conception. C'est que les engagements cadres augmentent la connaissance perceptive, mais pas la perception. La seconde conception, c'est qu'elle change, elle transforme, elle affecte non seulement la connaissance perceptive, mais aussi le contenu perceptif. C'est-à-dire qu'on va dire que le fait de tenir pour acquis certains faits, comme le fait qu'il n'y a pas de sosie de Julien Dutens dans cet environnement-là, il y a des sosies qui sont peut-être plus difficiles à réaliser que d'autres. Ce type de fait que je tiens pour acquis, si vous voulez, me permet non seulement d'acquérir la connaissance perceptive que Julien est là, mais aussi d'augmenter mes capacités perceptives, c'est-à-dire de percevoir Julien Dutens en tant que Julien Dutens, c'est-à-dire percevoir l'identité numérique d'une personne nommée comme telle, si je puis dire, qui correspond à une image en mémoire à long terme, etc. Bon, certains d'entre vous ont reconnu évidemment que cette question-là, elle est liée au débat dans la philosophie contemporaine de la perception sur deux conceptions du contenu perceptif, qui sont les conceptions libérales, qui considèrent qu'on perçoit des propriétés de haut niveau, comme le fait d'être Julien Dutens, par exemple, ou d'être un tigre, ou d'être une voiture. Ce seraient des propriétés qu'on pourrait directement percevoir comme instanciées dans le monde sensible. Et puis, il y a des conceptions plus austères qui considèrent qu'on perçoit des apparences qui sont constituées de propriétés de plus bas niveau, couleur, forme, orientation, texture, etc. Alors, la relation entre ce que je viens de dire et le débat contemporain, évidemment, n'est pas tout à fait directe, puisque je me suis permis de faire une distinction entre la perception simple, non épistémique des objets et peut-être des faits dans le monde, et une forme de perception épistémique, c'est-à-dire, quand je parle du contenu de la perception, je parle du contenu épistémiquement pertinent de la perception. Si vous considérez que les acteurs dans ce débat-là, je ne sais pas, Susanna Siegel, par exemple, comme quelqu'un qui a défendu une conception libérale, Susanna Siegel, je ne suis pas sûr qu'elle parle réellement du contenu épistémiquement pertinent, plutôt que du contenu phénoménologique, par exemple, ou phénoménal de l'expérience. Mais enfin, il y a un lien très, très étroit, évidemment, entre ces conceptions. Alors, beaucoup d'auteurs, depuis Strawson, ont noté qu'il y avait effectivement une forme d'antinomie dans ce débat entre un point de vue austère sur la perception et un point de vue plus libéral. Encore une fois, je ne parle que de la dimension épistémique de la perception. C'est que, d'un côté, les conceptions austères sont apparemment... obligé de dénaturer la manière dont l'expérience nous apparaît, éventuellement la façon dont on s'attribue des expériences. Hein, quand je m'attribue une expérience, je dis, ben, il me semble voir une chaise. Je ne dis pas, il me semble voir une apparence de chaise ou quelque chose qui ressemble à une chaise, mais qui pourrait être autre chose. Donc les auto-attributions d'expérience semblent motiver une conception plutôt libérale. Mais d'un côté, les conceptions libérales tendent à multiplier les illusions sans avoir de critères clairs sur ce qui compte comme une illusion. Quand on est victime d'une illusion d'optique, le psychologue peut nous dire ce qui se passe. Il peut nous dire qu'il y a un conflit entre, la taille et le contraste. Voilà. Donc il y a une explication de telle illusion d'optique. Par contre, s'il y a un tigre, pour le dire comme Putnam, si on considère que ce stylo, qui est un stylo PSL d'ailleurs, est en fait un envahisseur extraterrestre. Certains établissements le perçoivent peut-être comme ça. Ça veut dire que je suis victime d'une illusion. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, je m'auto-attribue l'expérience visuelle d'un stylo, mais en fait, ce n'est pas un stylo que je vois, c'est un envahisseur extraterrestre. Et donc, je souffre d'une illusion. Ce n'est peut-être pas une illusion d'optique, mais c'est une illusion tout de même, et on ne voit pas très bien quel est le critère qui nous permettrait de faire la démarcation entre ce qui constitue une perception véridique et une illusion. Mais en réalité, l'antinomie repose sur une dichotomie qui est fausse, d'après moi, entre les illusions perceptives et les erreurs cognitives. Et en fait, si on augmente la conception austère d'une approche en termes d'engagement cadre, on peut répondre à un certain nombre d'objections, et notamment, on peut essayer de lever l'antinomie qui grève le débat entre une conception austère et une conception libérale. Par exemple, dans l'exemple du stylo, je tiens pour acquis que ce qui ressemble à un stylo est un stylo. Si cette proposition s'avère fausse, comme cette proposition correspond à un engagement irrationnel, hein, comme dit Pritchard, ce n'est pas une erreur cognitive. Hein. Une erreur cognitive, c'est un défaut de rationalité en un certain sens. Là, je ne commets pas une erreur cognitive puisque je me repose sur une présupposition épistémique, sur une proposition cadre qui s'avère fausse. Peut-être qu'il y a un certain nombre de devoirs épistémiques propres aux engagements cadres, ça on peut en discuter, mais en tout cas, ce n'est pas une erreur cognitive au sens où on l'entend dans la littérature. Bon, je vais passer, il me reste combien de temps
Je crois que c'est quasi terminé.
D'accord. J'ai presque fini, hein, je ne sais pas. Je vais juste dire un mot sur les auto-attributions ordinaires, hein, quand on dit... il me semble voir une main, il me semble voir une chaise, qu'est-ce qui se passe ? On peut dire de manière assez générale que ces auto-attributions sont sensibles à ce qu'on est enclin à croire sur la base de son expérience. Mais ce qu'on est enclin à croire peut correspondre, si vous voulez, à, en un certain sens, des propositions cadres ou des propositions à contenu empirique. Et cette distinction-là n'est pas forcément une distinction que le sujet ordinaire va pouvoir faire de manière transparente. Juste un mot sur ce qu'on peut appeler le silence des cadres, mais c'est vraiment mon avant-dernière diapo. Il y a très longtemps, Frank Ramsey a fait une remarque intéressante, qui est sans doute négligée par tous ceux qui, comme moi, par beaucoup de philosophes et de psychologues qui s'intéressent aux sentiments épistémiques et notamment aux sentiments de certitude, hein, l'idée qu'il y aurait une expérience affective qui correspondrait à un état de certitude. Wittgenstein nous dit, les croyances qui sont conformes de la manière la plus forte possibles sont souvent accompagnées par pratiquement aucun sentiment ou ressenti du tout. Et Ramsey dit « No one feels strongly about things he takes for granted hein, ». C'est-à-dire qu'on n'a pas de sentiment de certitude à propos de faits que l'on tient pour acquis. Et ça, c'est un peu paradoxal. Ça veut dire qu'en fait, quand on a un sentiment de certitude, c'est justement quand on n'est pas certain de la proposition en question. On peut dire la même chose de la familiarité. Quand on a un sentiment de familiarité, c'est justement qu'on n'est pas entièrement familier. Quand on a un sentiment de familiarité, par exemple, quand je rencontre quelqu'un, je suis sûr de le connaître, je ne retrouve plus son nom, j'ai un sentiment de familiarité. Mais justement, cette personne ne m'est pas familière jusqu'à ce que je retrouve son nom et que je l'identifie et je la reconnaisse comme telle. Pour le sentiment de certitude, c'est la même chose. Un sentiment de certitude peut porter éventuellement une certaine valeur épistémique, ça peut éventuellement justifier un jugement métacognitif, un jugement sur est-ce que je suis bien certain de cela. C'est incontestable, mais précisément ça montre que le sentiment de certitude, en réalité on l'a quand on n'est pas certain, c'est-à-dire que quand on ne raisonne pas selon la proposition cadre en question. Donc désolé, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Trois conclusions vraiment assez générales. Encore une fois, c'est très exploratoire, il faudrait évidemment en dire beaucoup plus. Première conclusion, les engagements cadres augmentent, non seulement permettent, mais augmentent d'une certaine manière l'étendue de la connaissance perceptive, mais pas l'étendue du contenu perceptif. Je pense que c'est une distinction qui est très importante. Deuxième conclusion, dans la mesure où les propositions cadres incluent les objets et les faits familiers, l'approche en termes de cadre est tout à fait compatible avec des conceptions austères du contenu perceptif. En fait, je n'ai pas pu le montrer ici, mais je pense qu'on peut même essayer de donner un argument en faveur des théories austères du contenu perceptif. Sur la base de l'application d'une théorie des engagements cadres. Et enfin, les sentiments épistémiques, comme le sentiment de certitude, puisqu'à un certain moment, il faut bien dire quelque chose sur la relation entre le sentiment de certitude et, on va dire, l'état de certitude ou la certitude primitive, les sentiments de certitude ne manifestent pas des engagements réels. Les sentiments épistémiques, comme le sentiment de certitude, manifestent des engagements virtuels. Ça peut être des engagements passés ou des restes d'engagement, mais pas de véritables engagements cadres. Puisque précisément, quand on a un sentiment de certitude, on ne raisonne pas en tenant pour acquis le fait réputé certain. Voilà, je suis désolé de rater un peu rapide, mais je m'arrête là.
Merci Jérôme.